Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles dans
le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis tabac, canne à sucre, ou bien boléro, reggaeton, ça vous parle? Eh bien, nous allons encore une fois, après l'Islande, voyager sur une île, mais une île beaucoup moins froide. Je vais parler de Cuba. Cuba où je n'ai jamais mis ne serait-ce qu'un orteil, mais une île qui suggère tellement d'idées reçues, de fantasmes. Cuba, donc, une île, mais aussi un État communiste à parti unique, dont le président du Conseil d'État aujourd'hui est Miguel Díaz-Canel, après Fidel Castro et son frère Raúl. Raúl qui n'est plus dans le gouvernement, mais toujours à la tête du parti. Une île qui a souffert et qui a vécu tous les tourments. Les tourments de la colonisation, d'abord, par les Espagnols. Les tourments de l'occupation. Car même si Cuba est indépendante depuis 1902, les États-Unis ont organisé un contrôle sur ce pays par un amendement, dit « amendement Platt », qui leur permettait un droit d'ingérence. Et puis, finalement, les tourments de la mise en place d'un embargo en 1962 pour cause du chute de Batista et au nom de la lutte contre le communisme. Embargo durci encore sous la présidence de Trump. Tourment des dictatures, Batista, les Castro, et aujourd'hui Miguel Díaz-Canel. Tourment de la crise, quand à la fin de l'URSS, le pays a été privé d'un certain nombre d'importations de produits, ce qui a contribué à sérieusement dégrader la vie des Cubains. Bref, le soleil, la mer, la musique, la misère, la débrouille. Leonardo Padura est un écrivain cubain, né en 1955 à La Havane. Fan de baseball, il voulait être journaliste sportif, mais cela lui a été refusé. On ne choisit pas toujours à Cuba. Et il s'est orienté vers des études plus académiques, mais de journalisme quand même. C'est après un séjour en Angola, assigné en tant que journaliste entre 85 et 86, où il a vécu le meilleur comme le pire, côtoyé la misère et la peur, qu'il a évolué vers l'écriture. En effet, l'Angola est une ancienne colonie portugaise où Castro avait envoyé des troupes pour soutenir le mouvement populaire communiste et le combat pour l'indépendance. Je vais évoquer deux romans de Leonardo Padura, fraîchement lus, un polar de la série des Mario Conde, La transparence du temps, écrit en 2018 et traduit en 2019 en français, et un roman, Poussière dans le vent, écrit en 2020 et traduit en 2021. Leonardo Padura a donc commencé à écrire des polars cubains dont le personnage principal est le flic, puis ensuite ancien flic, Mario Conde, un homme bon vivant, amateur de cigares, de rhum, de café et de bons repas, enfin, tout ça quand c'est possible, car toutes ces denrées sont parfois inaccessibles ou demande un sens aigu de la débrouille. Ce personnage est de la même génération que Leonardo Padura et prend de l'âge comme lui au fur et à mesure de ses romans. Il a donc écrit 10 romans de 91 jusqu'en 2023, enfin 10 romans, 10 polars avec Mario Conde. Mario Conde n'est pas le parfait héros. Il peut faire preuve de ce machisme endémique dont il essaye quand même de se défendre. Il picole pas mal, mais il est fidèle en amitié et on retrouvera ses amis de longue date dans chaque roman, tous bien typés et pleins d'humour. Un humour qui penche parfois vers des propos désabusés, ne l'oublions pas, cela se passe à Cuba. Et Cuba, contrairement au cocktail appelé le Cuba Libre, est un pays verrouillé, censuré, où l'individu lambda a assez peu droit au chapitre. Donc, le polar, la transparence du temps. comme moi aussi je vieillis en même temps que Padura et Mario Conde, je vais vous parler de l'avant-dernier de la série où Mario Conde va avoir 60 ans. Mais bien entendu, si vous n'avez jamais lu aucun de ses romans, il vaut mieux commencer par le début. Pessimisme, mélancolie, ironie. Chaque roman décline cette ambiance particulière, insulaire, tropicale, sensuelle. L'écriture de Leonardo Padura est simple, efficace, avec des formules très expressives. Les dialogues sont souvent savoureux. Il y a aussi des passages à la mode sud-américaine. Je veux dire des phrases longues, très longues, qui digressent pour quand même revenir au point de départ. Et ça, j'aime, d'abord pour des raisons très personnelles de connaissances sud-américaines très proches, et aussi parce que ça enrichit le récit. Il y a également des chapitres documentés dans ce roman-là, mais aussi dans tous les romans de Padura. Et là, en l'occurrence, il convoque des traditions. Ainsi, il va faire référence à un sanctuaire où se trouve une Vierge noire, la Virgen de la Regla, qui existe vraiment, qui est la patronne des Afro-Cubains et également de la Havane. Pour extrapoler sur l'histoire d'une autre Vierge noire. Comme Léon Padura le dit dans un entretien sur France Culture, ce qu'il décrit existe. Son travail se nourrit du réel auquel il mêle la fiction. Il dit « Écrire implique une responsabilité civile plutôt que politique. » En effet, même s'il se défend de faire la politique, ces personnages, eux, parlent, s'expriment, font souvent de l'ironie ou taquinent le sous-entendu. Ainsi, voici un petit descriptif sans concession. Il suffisait d'approcher une cellule sensible de l'atmosphère de cet immeuble pour que les sens, la vue, l'ouïe et l'odorat se sentent traîtreusement agressés par des puissances barbares. Certaines valeurs esthétiques et architecturales élémentaires subissaient le même sort, rebutées par les canalisations en fer des évacuations qui filaient à découvert le long des plafonds et des murs et dans lesquels on entendait couler les eaux usées ou par l'escalier en béton brut aux marches visiblement irrégulières capable de transformer l'ascension et la descente en une prouesse physique. Condé se souvient du jugement constructif d'un vieil ami qui affirmait que ces immeubles, bâtis dans les années 1980 pour les travailleurs méritants qu'il fallait loger, n'étaient pas faits avec du ciment, mais avec de la crasse. Telle une offense additionnelle dans l'espace intérieur où aurait dû fleurir un jardin, seuls poussaient des mégots de cigarettes et de cigares, des bouteilles vides et des crottes de chiens, et peut-être quelques apports physiologiques humains à des degrés divers de momification. Dans ce roman, Mario Conde va être interpellé par un ancien camarade qui lui demande un service, plutôt à lui qu'à la police. Il est donc entraîné dans une enquête, même s'il se défend de ne plus être flic, et il va commencer une balade dans Cuba, des rencontres avec des personnages bizarres ou pas très clairs, pour certains visiblement riches, vivant dans des belles maisons et n'ayant aucun problème d'approvisionnement. Ce à quoi fait souvent référence Mario Conde, et des lieux de misère où traîne une humanité disparate. Dans sa pseudo-enquête, il va pénétrer et découvrir un lieu qu'il appelle l'implantation, en fait un bidonville où existe une vie parallèle faite de trafic, de survie, de magouille. Exemple. Le sentier principal qui suivait se mit à grimper quand ils laissèrent derrière eux la zone la plus centrale, la plus commerciale de l'implantation, où il y avait des cafés improvisés, une plus grande densité d'étals et une circulation incessante de personnes. Condé fut frappé de voir aussi bien des gens avec des vêtements très usagés et misérables que des jeunes avec des jeans et des t-shirts fluo à la dernière mode, y compris des imitations des maillots du Real Madrid et du Barça, qu'on voyait maintenant dans toute la ville. Le policier qui, à son corps défendant, était toujours en lui, se demanda d'où sortait l'argent qui permettait à tous ces commerces précaires de subsister et à certains de s'habiller d'une façon si incompatible avec le contexte. Il se répéta la question qu'il se posait avec l'insistance d'un inquisiteur. Mais bordel, qui travaille dans ce pays ? Comme toujours, il resta sans réponse. Et toujours, l'auteur, par la voix de Mario Conde, nous décline son attachement à cette île, ses paysages, la mer, les quartiers qu'il aime et toute la sensualité tropicale. Et surtout son péché mignon, le rhum. Discussion avec un protagoniste. Condé, Condé, quelle générosité! Eh bien, si tu me permets de choisir un Santiago Añejo. Tu sais que ce rhum est le seul vraiment fabriqué dans l'ancienne maison Bacardi, avec la même formule qu'à l'origine. Bon, mais qu'est-ce que je te raconte? Comme si tu n'y connaissais rien en rhum, hein? C'est pour ça que c'est un délice. Même si tu descends une bouteille entière, le lendemain tu es en forme, tu n'as pas la gueule de bois, comme avec ces rhums merdiques qu'on présente maintenant avec des jolies étiquettes. Ils leur ajoutent des colorants et hop, comme ça ils se foutent du temps habituel de vieillissement. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et dans ce roman, ça parle aussi du temps qui passe, car Mario Conde voit avec angoisse approcher son anniversaire. C'est 60 ans. Même s'ils étaient arrivés en temps voulu au rendez-vous pris par le Conejo, ils furent rassurés de savoir que le père Gonzalo Rinaldi les attendait dans la sacristie. Condé vit avec stupeur que le prêtre était plus jeune qu'eux. Jusqu'à présent, tous les curés qu'il avait rencontrés étaient plus vieux que lui, et il s'était fait à l'image d'un prêtre qui devait être une personne d'un âge avancé. Alors, s'il commençait à être plus âgé que les curés, le problème de sa vieillesse devenait à la fois plus évident et plus inquiétant. D'après les statistiques, il était déjà plus vieux que 66% des habitants de la planète, y compris quelques curés. C'est dingue, se dit-il. Voilà pour les extraits. Ces romans, donc toute la série des Mario Conde, sont à la fois une photographie de Cuba, une étude sociologique. C'est rempli d'humanité. Et même si les femmes sont assez souvent des objets de concupiscence machiste, il y a toujours une sorte de rattrapage dans les discours ou dans les actes. Et surtout, parce que Condé est toujours amoureux de Tamara, son amour de jeunesse, femme médecin et perspicace. Tamara, qui travaille à l'hôpital, une femme qui, malgré sa compétence professionnelle, s'en sort à peine financièrement. Ce qui fait craindre à Mario Conde qu'un jour elle ne quitte l'île pour rejoindre son fils et sa sœur qui vivent en Italie. Car dans tous les romans de Leonardo Padura, ça parle évidemment de l'exil. Ceux qui sont partis, ceux qui ne peuvent pas partir, ceux qui ne peuvent pas revenir et ceux qui ont décidé de rester. Et ça fait écho à l'auteur qui a pu voyager à travers le monde, a même en plus de la nationalité cubaine, la nationalité espagnole. Mais Leonardo Padura a fait le choix de vivre à Cuba. Leonardo Padura ne nomme jamais dans ses romans les dirigeants cubains. C'est plus subtil que ça. Et puis peut-être, moi je me risque à y interpréter, ça a permis d'éviter la censure. Et puis, même dans les premiers polars, où Mario Conde est encore flic et pourrait représenter l'ordre d'un état dictatorial. En fait, il est plutôt l'anti-flic, pas toujours rationnel, ayant des intuitions et sensible à la poésie. En fait, il aurait voulu être écrivain et se hasarde d'ailleurs à essayer d'écrire. Et toute son humanité, malgré ses défauts, le rend sympathique. Ainsi, par exemple, dans Electre à la Havane, un autre de la série des Condé qui date de 1997, où Condé a 35 ans et travaille encore dans son commissariat, il est confronté au milieu des homosexuels et des trans. Et au départ, son homophobie lui fera avoir des propos virulents, assez peu acceptables. Et c'est là que Leonardo Padura rattrape les choses. Il va le faire rencontrer un personnage homosexuel, drôle, cultivé, avec qui, à son corps défendant, il va sympathiser et peu à peu revoir sa copie. Des polars sympathiques, intéressants et prenants. Voilà. Et puis, nous allons faire une petite pause musicale avec le Buena Vista Social Club.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. No te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Marcané, llego a Puerto y para Mayarí.
En fait, le Buena Vista Social Club était une boîte de nuit à La Havane qui fut détruite après la révolution de 59. Et c'est Ray Cooder, le compositeur de la musique du film Paris, Texas, qui a réuni des vieux musiciens cubains en 1996. Ces hommes et femmes, une femme je crois, déjà âgées, qui n'avaient pas pu continuer leur carrière musicale, ont répété 6 jours en studio et ont pu quitter leur île, je crois que c'était pour la première fois, pour partir en tournée, sous l'appellation justement de Buena Vista Social Club. Et donc, entre autres, ils ont pu faire des concerts à Amsterdam, New York. Ça a été une très belle aventure dont le cinéaste Wim Wenders a fait un film. Alors maintenant, je vais vous parler non plus de polar, mais d'un roman, d'un beau roman, Poussière dans le vent, donc toujours de Leonardo Padura, en espagnol Como polvo en el viento, ou en anglais Dust in the Wind, en référence à la chanson Dust in the Wind du groupe Kansas, qui écoutait Padura dans les années 70. On n'est plus du tout dans un polar, pas de Mario Condé ici, on a affaire à un grand roman, un pavé même, 640 pages, une énorme tranche de vie cubaine. Trois générations vont apparaître dans ce roman. Leonardo Padura va nous promener dans différentes époques, de 90 à 2016, et nous faire voyager dans le monde, l'Argentine, les États-Unis, l'Espagne, Porto Rico, la France. L'événement fondateur autour duquel va se construire ce roman avec ses allers-retours spatio-temporels est l'anniversaire de Clara, qui fête avec ses amis ses 30 ans en 1990, et qui sera symbolisée par une photo prise à ce moment-là, photo qui questionnera et permettra des flashbacks. Cette photo nous fait découvrir huit amis, dont Clara, amie depuis le lycée et dont le lieu de rencontre est une maison située dans le quartier de Fontana, à La Havane, construite par les parents de Clara, des architectes. Cette maison qu'avait dû quitter Clara à la mort accidentelle de ses parents et dans laquelle elle vit lors de son anniversaire. Et on parle peu des parents de Clara, mais il y a un petit passage qui est, à mon avis, assez intéressant. À la naissance de Clara, ses parents étaient deux des jeunes architectes les plus sollicités du pays, en train de devenir riches et célèbres, en contact avec ce qui se faisait de plus novateur en matière d'art et de culture sur l'île, même compte tenu de la dispersion des talents provoquée par les redoutables derniers coups de griffe d'une dictature aux abois qui savait ses jours compter. Là, en l'occurrence, il parle de Batista. Après le triomphe de la Révolution en 1959, au moment où certains de leurs amis rentraient d'exil et où d'autres commençaient à prendre le chemin inverse, devant les premières évidences de la nature du processus en marche, ils avaient décidé, comme beaucoup d'autres, de rejoindre ceux qui travaillaient pour le changement social et la construction d'un pays neuf. Chauffés à blanc par leur romantisme et leur nouvelle foi, ils renièrent sans peine une part de leur avant-gardisme bourgeois pour mettre leurs talents au service de projets fonctionnels à portée sociale destinés à répondre aux besoins collectifs. Et donc plus loin, on peut lire: les immeubles qui finissaient par être construits à Fontanar, justement, avec la volonté d'effacer la dimension bourgeoise du quartier en le prolétarisant, représentaient l'antithèse de leur propre maison, si exubérante et bourgeoise. Qui plus est, en lançant les travaux, les responsables du chantier, par souci de rapidité et d'économie, écartèrent plusieurs préconisations figurant sur les plans et qui ne leur semblaient pas indispensables. Ils travaillèrent avec les médiocres matériaux dont ils disposaient, et à l'arrivée, cela donna des blocs carrés, sombres, qui, construits à toute vitesse, avaient des escaliers aux marches irrégulières et des toits où ne tardèrent pas à s'infiltrer les fréquentes pluies qui tombaient sur Fontanar. Cette maison est un lieu refuge, un lieu de discussion, de fêtes, de débrouilles, où le groupe d'amis, le clan, se retrouve fréquemment et va être le théâtre de questions, d'inquiétudes. Ces hommes et ces femmes sont tous diplômés et ont voulu, comme les parents de Clara, croire à un monde nouveau à Cuba, enfin débarrassé du mafioso Batista. Mais hélas, en 1990, l'URSS se désagrège et donc plus de ressources venues du grand frère soviétique. L'embargo perdure, la vie est compliquée, pointe aussi une politique répressive avec son lot de magouilles, d'indics, où n'importe qui peut être délateur et va s'insinuer le doute, la méfiance, la peur. Petit extrait. On nous surveillait peut-être par routine, par des formations professionnelles, par vice ou bien au cas où, lança Elisa qui avait gardé jusque-là un mutisme inhabituel. Oublie d'être rationnel, Horatio. Moi, je sais bien que parfois tout est irrationnel, un point, c'est tout. Ça pouvait aussi bien être Guesti que Walter ou... Je n'aime pas qu'on parle de ça, l'interrompit Lyubia. Ça me rend nerveuse. Sois nerveuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, rétorqua Lisa. Moi, je le sais, à cause de mon père, je le sais très bien. N'importe qui, ici, peut être un salopard d'indic. Et moi, je crois que Walter l'était. Sinon, pourquoi toute cette enquête de flic ? C'est bon, Elisa, supplia Lyubia. Changez de sujet. On peut toujours parler de baseball, reconnut Horatio. La demande de Lyubia de s'éloigner d'un terrain marécageux où il s'était enfoncé jusqu'au menton le soulageait. Mais il se dit qu'il devait réfléchir et aller réfléchir. Pourquoi Lyubia refusait-elle le sujet avec une telle insistance ? Se demanda-t-il pour commencer. L'indique, ça pouvait être elle. Et il se dit aussi qu'Irving avait peut-être bien vu Guesti, tout était possible. Ce qui lui semblait clair, comme il devait l'avouer des semaines plus tard à Irving, quand dans le groupe d'amis commencèrent à se déclencher des alarmes beaucoup plus stridentes, c'était la conviction que, dans tout ce qui était arrivé, il y avait quelque chose de plus trouble qu'une simple et douteuse surveillance de routine de la part de qui que ce soit. Ce roman foisonne. Et si on accroche dès le début, alors on s'immerge avec un grand plaisir jusqu'à la fin. Tout y passe. L'exil, la perte, l'instinct de survie, la fidélité, les amours, la mort, les désillusions, toujours cet amour-haine pour Cuba et la musique, dont Dust in the Wind de Kansas.
Only for a moment, and the moment's gone.
personnages de ce roman sont attachants et il leur revient souvent cette interrogation en leitmotiv, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et on sent bien en filigrane la question que Leonardo Padura se pose. Il dit d'ailleurs que dans les années 70, il écrivait comme un fou pour ne pas devenir fou. Ce n'est pas un polar, mais il y met aussi une petite dose de mystère qui nous alpague. Et si le roman nous emmène à l'étranger, c'est que la question du départ, quand, comment, où, est omniprésente. Petit extrait, le père d'Horatio. Quand advint le silence de son père à la fin des années 1960, Horatio se réjouit même de l'évaporation de son géniteur, car sur les questionnaires scolaires qu'il devait fréquemment remplir, il put enfin préciser que oui, il avait de la famille à l'étranger, père, États-Unis, mais sans peur de mentir, il put ajouter que non, il n'avait aucune relation avec lui, ainsi qu'on l'attendait d'un jeune élève révolutionnaire. Les exilés étaient des apatrides et la patrie, incarnée par la Révolution, devait toujours être au-dessus de tout, y compris de la famille. Et puis, Clara, qui a une place quand même assez importante parce que, dans ce roman, parce qu'elle est la seule qui va rester à Cuba, et qui a deux enfants, dont un qui est déjà parti rejoindre son père à l'étranger, et puis discussion avec le deuxième. Comment ? Tu vas partir ? Par où ? Pour où ? Demanda-t-elle tout en plaçant le pain grillé sur une assiette avant d'éteindre la cafetière où l'eau filtrée bouillait déjà, remplissant la cuisine de son arôme. Je ne sais pas, maman. Tu as bien réfléchi, Ramsès ? Il te reste un an pour obtenir ton diplôme. Et je ne vais pas le passer, mon diplôme. Je ne sais pas où ni comment, mais je l'aurai un jour, je peux te le jurer. La seule chose que je sais là, c'est que je m'en vais. Et tu sais pourquoi ? Je peux me l'imaginer, parce que tu as envie d'une vie meilleure qu'ici, non ? Oui, pour ça aussi. Mais si je m'en vais, c'est surtout parce que ici, quand j'aurai mon diplôme, j'aurai un titre d'ingénieur à peu près équivalent au tien, dans la même fac où toi tu l'as eu, et parce que je ne veux pas qu'à 40 ans et quelques, ma vie ressemble à la tienne, maman. Mais, pardon, ce que je te dis te vexe, pardonne-moi, tu as été la meilleure mère qu'on puisse imaginer, celle qui pense toujours aux autres avant de penser à elle, qui peut même offrir aux autres ce qu'elle n'a pas. Tu es la meilleure personne que je connaisse, mais ta vie est devenue une vie de merde. Dur, hein ? Donc, un roman qu'on n'a pas envie de quitter, tellement humain et tellement fort. Pour finir, je vais vous parler de deux articles. Parce que, bon, même s'il faut reconnaître que Cuba, débarrassé de Padista, a développé un système éducatif performant, formé en particulier des médecins très compétents, les droits de l'homme et de la femme se sont quand même un peu écornés, et même encore aujourd'hui, où en fait tout est contrôlé. Ainsi, deux articles. Le premier dans le Libération du 4 avril 2004, où il y a un article qui parle de la situation compliquée des intellectuels et des artistes. Petit extrait. Le dilemme de Javier Mora résume bien la situation des intellectuels à Cuba. Comment pense-t-on dans un pays totalitaire au bord de l'effondrement ? Malgré les difficultés économiques, le pays continue d'investir dans la culture. Il jouit encore d'institutions artistiques et intellectuelles assez fortes, mais totalisantes. Hors d'elles, point de salut. Impossible d'être publié, d'accéder à la plupart des espaces de débat ou simplement de travailler quand il ne s'agit pas tout simplement de finir en prison. Les associations dénombrent plus de 1000 prisonniers politiques après les manifestations du 11 juillet 2021, dont la plupart n'ont toujours pas été libérés ou en exil. Pour exemple, en 2018, a été promulgué un décret qui oblige les artistes à solliciter l'autorisation préalable du ministère de la Culture avant de se produire dans les espaces publics ou privés. Ce même décret qui stipule l'interdiction de vendre des livres dont la teneur est préjudiciable à l'éthique et les valeurs culturelles de Cuba. Deuxième article, c'est dans l'Humanité du 19 et 1 avril 2024. Il y a un article qui pointe la responsabilité des États-Unis dans la crise économique à Cuba. Ben oui, l'embargo a perduré, même si à un moment donné, Obama est venu faire une petite visite à Cuba et a essayé un petit peu d'alléger la chose. Aujourd'hui, c'est une grande misère à Cuba. Voilà, et pour finir, je vais vous parler d'un film que je n'ai pas vu, mais qui parle aussi de Cuba, qui s'appelle Retour à Ithaca, en 2014. Et il a été coécrit avec Leonardo Padura et Laurent Canté. Et c'est un peu un film théâtre, ça se passe dans un lieu où des gens sont revenus à Cuba après des séjours à l'étranger. Et c'est toute une discussion entre tous ces Cubains. Voilà, ben je vous souhaite plein de bonnes lectures, si ça vous branche, et puis à bientôt. Au revoir.
Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeux, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107 FM.